Si vous écoutez un tant soit peu les informations, vous l'aurez entendu. La campagne des primaires, ou plutôt les campagnes des différentes primaires, sont désormais ouvertes. Et avec tout cela, notre vision de notre pays, de la marche de notre pays, a tendance à se rétrécir. On n'est plus dans un discours qui est donné pour construire, pour bâtir, pour donner à voir, pour se projeter, mais on tombe facilement dans l'invective. Alors je n'ai pas listé les dernières du jour, mais vous les aurez sans doute entendues aussi. On n'est plus dans un discours qui est là pour construire, qui donne à espérer, qui donne à chacune et chacun de se mobiliser en vue d'un objectif commun, mais on est dans l'exagération, dans l'approximation, dans les attaques personnelles et dans les petits mots. Très loin de projets politiques ou sociaux donnés pour notre pays ou pour notre société. Cela me rappelle une tribune un peu virulente que la rédactrice en chef du Guardian en Grande-Bretagne, en Angleterre, a écrite il y a quelques mois, suite au Brexit et donc au résultat fort étonnant du peuple de Grande-Bretagne souhaitant se retirer de l'Union européenne. Elle écrivait que nous étions entrés avec ces médias qui fleurissent sur les réseaux sociaux dans une ère de post-vérité. Une ère derrière, après, au-delà de la vérité. Ou plutôt que nous étions dans une nouvelle ère où la vérité n'avait finalement pas grand sens dans le discours. Elle soulignait que dans tout le débat qui avait eu lieu au Royaume-Uni, ce qui était le plus important, ce n'était pas la vérité, les faits, mais les effets. Autrement dit, dans le discours des partisans comme des opposants du Brexit, ce qui comptait, ce n'était pas que ce qu'ils disaient s'attachait à une forme de réalité, mais plutôt ce que ça allait provoquer chez ceux qui l'entendaient, peu importe que ce soit vrai ou pas. Et on peut penser aussi au discours de Donald Trump outre-Atlantique, où nous sommes sans cesse surpris de constater l'influence que son discours peut avoir alors qu'il manipule l'invective, l'insulte, les contre-vérités, les mensonges, la discrimination, et pourtant ça marche. Et pourtant ça marche. Son discours fonctionne auprès de toutes celles et tous ceux qui ne voient plus d'issue dans les discours politiques plus classiques. Mais si j'ai commencé par les primaires en France, c'est bien pour souligner que ce n'est pas seulement outre-Atlantique que ce type de discours fonctionne. Et ainsi, quand un candidat français déclarait il y a 15 jours « À partir du moment où l'on acquiert la nationalité française, on vit comme les Français et nos ancêtres sont les Gaulois », vous voyez bien où je veux en venir. Qui parmi nous, ce matin, peut déclarer, sûr de lui, que ses ancêtres sont gaulois? J'ai un nom plutôt français, et pourtant je sais qu'à quelques générations de distance, j'ai des ancêtres qui ne venaient pas de ce territoire. Peu importe les faits, ce qui importe dans ce type de déclaration, c'est l'effet que ça produit. Peu importe d'ailleurs que celui qui a prononcé ces paroles est tenté devant le ramdam provoqué par cette déclaration, qu'il est tenté de rattraper ses mots, de les nuancer, de mettre un petit peu de distinction. On se souvient aujourd'hui de sa déclaration première, et certainement pas de sa déclaration quelques jours plus tard, tentant de rattraper le coup. Dans ce type de discours, relayé, amplifié, démultiplié par les médias, ce qui compte, ce ne sont pas les faits, mais bien l'effet qu'importe que celui-ci soit positif ou négatif. Et puisque ce candidat nous invitait à tenter d'imaginer une histoire nationale, un roman national, comme sous la Troisième République, ancrant l'actualité et l'avenir de notre peuple dans un passé lointain se référant à Vercingétorix et à Gergovie, tentons de voir ce qu'il en est dans la Bible d'un roman national. Vous avez entendu ce texte un peu dur du deuxième livre des Rois, un peu dur parce qu'il fait référence à de multiples dates, le cinquième jour du deuxième mois de la huitième année, etc., etc. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais vous avez bien senti ce qu'il se vit dans ce récit. Jérusalem est encerclée par les Chaldéens sous la conduite de leur roi Nabucodonosor, jusqu'à ce que la famine au sein de la ville fasse tenter une échappatoire, mais malheureusement, Sédécias, le roi, est capturé. Et puis il y a là un inventaire bien macabre des sévices que l'on fait subir à ce roi vaincu. On assassine ses fils sous ses yeux, et puis on lui crève les yeux, et puis enfin on l'emprisonne. Voilà le roman national, j'allais dire, du peuple d'Israël contenu dans l'Ancien Testament. Mais contrairement à des déclarations simplistes aujourd'hui dans les médias, c'est un roman national qui ne se veut pas univoque, avec un seul sens, avec une seule compréhension. C'est un roman national qui ne se donne pas comme triomphant, glorieux. Il s'agit là d'une défaite, et d'une défaite qui est exprimée jusque dans ses moindres détails. Et si l'on avait du temps, et je vous invite à le faire peut-être en rentrant chez vous un jour, prendre le temps de lire les différents récits de ce moment critique de l'histoire d'Israël dans les différents livres qui composent l'Ancien Testament. Nous l'avons lu là, dans cet ensemble des deux livres des Rois. Les livres des Rois, globalement, cherchent à glorifier les règnes de David et de Salomon, et ensuite, par infidélité du peuple tout entier, la décrépitude d'Israël jusqu'à cet échec, jusqu'à cette défaite face aux Chaldéens, jusqu'à la déportation et à la ruine totale du pays. Et c'est bien ce que nous avons lu tout à l'heure. Au fond, il ne reste plus rien. Sédécias est arrêté, et puis emprisonné, et ensuite Jérusalem est totalement vaincu, rasé. Toutes les maisons sont rasées. Les grandes maisons de Jérusalem, toutes les maisons de Jérusalem, y compris la maison du Seigneur. Et tout le monde est emmené. Il ne reste plus rien et plus personne dans le pays. Quand on lit cet événement dans les deux livres des Chroniques, on n'a pas tout à fait le même récit. L'objectif de l'auteur des livres des Chroniques, c'est quand même de questionner le rôle de la royauté, et y compris son institution. Et David et Salomon n'ont pas un rôle aussi éminent, prééminent, que dans les livres des Rois. Et la déportation dans les livres des Chroniques concerne principalement la classe dirigeante. Les responsables de l'échec, c'est la classe dirigeante d'Israël et de Jérusalem. Et quand on lit ce récit de la déportation, finalement, ce n'est pas tout le peuple qui est déporté, mais principalement les grandes familles, les principaux dirigeants de la ville. On retrouve là, d'ailleurs, ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. Jérémie invective d'abord les responsables. Jérémie tente principalement de faire réagir les responsables. Le débat existe donc quant à cet événement à l'intérieur même de la Bible. Il n'y a pas un récit qui se veut un récit simple et univoque, unilatéral, une seule compréhension des événements. Si l'on lit l'histoire dans plusieurs livres, on a plusieurs interprétations et plusieurs explications de ce qui se joue, de ce qui se vit là. Le débat est donc interne au peuple d'Israël sur son histoire, et loin donc d'un roman national qui se voudrait monolithique comme un seul bloc. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, je vous ai dit que toute la population était déportée dans ce récit du Livre des Rois, et pourtant, l'auteur lui-même ajoute une nuance. Il dit « tout le monde est déporté » et puis il y a un verset 12 qui dit « mais finalement on autorise aussi quelques vignerons et cultivateurs à rester ». Peut-être qu'en rajoutant cette phrase, l'auteur de ce livre est en contradiction ou en opposition à un prophète qui est le prophète Amos, qui lui considère que quand les déportés reviennent d'exil, il n'y a plus personne. Il trouve un territoire vide. Aujourd'hui, il y a là, je trouve, un véritable défi pour nos églises. Non seulement, évidemment, peut-être dire qu'un roman national, s'il est utile pour constituer un peuple, pour donner à chacune et chacun le sentiment d'une appartenance, ne doit pas non plus être livré comme un bloc auquel on devrait adhérer sans nuance, sans hésitation. L'enjeu pour nos églises est plus large que simplement la question du débat sur l'identité nationale ou le roman national. C'est un enjeu de langage. Vous l'entendez quand on nous dit « quiconque obtient la nationalité française, ses ancêtres sont les Gaulois », on ne laisse la place à aucune distinction, aucune nuance, aucune subtilité. On est dans le massif qui s'impose. Et en entendant ces paroles, soit vous vous sentez concerné parce que, oui, peut-être que vos ancêtres sont Gaulois, soit au contraire, vous vous sentez directement mis sur la touche parce que vos ancêtres gaulois, c'est un peu difficile à croire, difficile à comprendre. L'enjeu est bien un enjeu de langage. Un enjeu qui sait laisser la place à l'autre, qui ne s'impose pas à l'autre, qui ne se donne pas comme un bloc à prendre ou à laisser dans son ensemble. Et aujourd'hui, le problème du discours politique est qu'il tombe dans ce langage binaire. C'est noir ou c'est blanc, c'est zéro ou c'est un, et ce n'est rien d'autre. Et quand on tombe dans ce type de langage, sans nuance, sans subtilité, qui est ou noir ou blanc, on tombe dans la harangue politique, dans le duel, dans la confrontation. Il n'y a pas de place pour l'autre. L'autre est avec vous ou il est contre vous. On parle dès lors dans un système qui oppose les gens. Il y a là un enjeu pour nos églises, pour les chrétiens, que finalement, d'enrichir le langage. Alors pas forcément de créer de nouveaux mots, mais d'être un espace où les choses peuvent se dire avec nuance, avec différence, avec subtilité, avec symbole, avec des choses qui sont de l'ordre de l'imperceptible. Je repense à un article d'un journal la semaine dernière qui traitait de l'application qui est présente sur certains téléphones portables avec une petite pomme. Vous savez, vous voyez de quel téléphone je parle. Il a une application qui est très pratique, c'est vrai. Je l'ai utilisée ce matin d'ailleurs, puisque j'étais au volant. Il m'a suffi d'appuyer sur un bouton pour demander à mon téléphone de faire quelque chose à ma place. Comme j'arrivais à Annecy et que je ne savais pas où me diriger, j'ai demandé à mon téléphone. Et mon téléphone me l'a dit. C'est très pratique. Cette application, ça s'appelle Siri. Et au fond, vous parlez à Siri. Vous ne parlez pas à quelqu'un, vous parlez à votre téléphone. Voilà. Donc vous pouvez dire « Siri, appelle Charlotte Gérard » et hop, le téléphone fait ça pour vous. C'est merveilleux, c'est magique. Sauf que, comme le soulignait cet article la semaine dernière dans Libération, pour pouvoir dire ceci, il faut que je me conforme au langage que comprend Siri. Et pour me conformer au langage que comprend Siri, ça veut dire qu'il faut que je simplifie mon propre langage. Je ne peux pas faire dans la métaphore, je ne peux pas faire dans le symbole. Je n'aurais même pas pu dire à Siri, « Siri, appelle ma collègue d'Annecy », parce que nulle part dans mon répertoire téléphonique, il n'est mentionné que Charlotte Gérard est ma collègue d'Annecy. Il fallait donc que je me conforme à un langage normé, avec des règles précises et qui balisent tout droit ce que j'ai à lui dire. L'article la semaine dernière était fort intéressant parce que, tout en soulignant tout le côté pratique de cette application, il disait aussi tous les risques pour notre société qui vit ainsi avec des béquilles technologiques. Notre pensée, notre regard, notre langage vont être formatés par ces utilisations. Or, si à longueur de journée vous parlez à votre téléphone, quel langage allez-vous employer pour parler à ceux qui vivent avec vous au quotidien ? Votre conjoint, vos frères et sœurs, vos amis, vos enfants ? Et si vous utilisez le même langage pour s'adresser à eux que le langage que vous utilisez pour parler à Siri, vous voyez bien toute la difficulté qu'il y aura à faire rentrer de la nuance, du débat, de l'échange. Les choses devront être noires ou blanches, sans subtilité. Et au fond, quand on utilise Siri, on fait exactement l'inverse de ce qu'on fait quand on parle à ses enfants. Pour que nos enfants apprennent à parler, ce que nous avons nous-mêmes fait quand nous étions petits, il faut s'adresser à eux avec un langage un tout petit peu plus complexe, un tout petit peu plus élevé que le langage qui est le leur. Et ainsi, au fur et à mesure, ils apprennent de nouveaux mots. Ils apprennent de nouvelles subtilités du langage. Ils apprennent du vocabulaire, ils apprennent des nuances, ils apprennent à dire les choses de manière de plus en plus élaborée. Or, nous avons maintenant des appareils qui vont nous désapprendre à parler, nous désapprendre la complexité pour nous conformer à une simplicité technologique qui est celle des marchands de publicité. Cet enjeu pour nos églises, pour nous, chrétiens, croyants, on le retrouve dans le psaume 70 aussi. Vous n'avez peut-être pas fait attention dans la lecture, mais c'est un verset au milieu qui est d'une très grande importance, je trouve, pour notre foi. Il est écrit que tous ceux qui te cherchent trouvent en toi leur gaieté et leur joie. Que tous ceux qui te cherchent. Ceux qui sont joyeux, gais, qui ont trouvé le bonheur, ne sont donc pas ceux qui ont trouvé Dieu. Ou ceux qui pensent l'avoir trouvé, mais bien ceux qui le cherchent. Autrement dit, la promesse de bonheur que Dieu nous tend, nous offre, c'est de nous mettre en route, c'est de le chercher. À aucun moment il dit « vous allez me trouver » ou « vous m'avez trouvé, ça y est, vous êtes heureux ». Non, vous serez heureux, plein de gaieté et de joie, si vous vous mettez en chemin pour le chercher. On voit ce que ça peut avoir parfois de déstabilisant, d'inquiétant même. De se dire, il n'est pas là, il faut encore continuer. Et pourtant, sa promesse, c'est que c'est dans cette recherche que nous trouverons notre joie et notre gaieté. C'est vital dans notre Église, dans toutes les Églises. C'est vital d'entendre cela. On pourrait considérer que les Églises sont les institutions représentantes de Dieu. Le lieu où dans ce monde, on sait qu'on va trouver Dieu. Et pourtant, nos églises sont héritières de cette tradition-là, de ce verset du psaume 70. Nos églises devraient être les lieux où l'on apprend à chercher Dieu, à se mettre en route pour le chercher. Je ne vous dirai donc pas où il se trouve, mais qu'ensemble, nous apprenions à le chercher. Et apprendre à le chercher, c'est apprendre à se mettre à l'écoute du chemin que les autres ont parcouru. Les autres, ceux qui nous ont devancés, les autres, ceux que nous côtoyons aujourd'hui, les autres, ceux qui vont venir nous rejoindre demain. C'est le rôle de l'Église d'être témoin de cette quête permanente, incessante, et donc de tenter de dire Dieu et le monde d'une manière qui ne soit pas réduite, circonscrite, enfermée, mais d'une manière, j'allais dire, transcendante, c'est-à-dire qui nous dépasse, c'est-à-dire qui est toujours au-delà de ce que nous pourrons en dire. Et en cela, je suis reconnaissant du processus synodal de notre Église sur sa déclaration de foi. Vous savez, en 2013, l'Église évangélique luthérienne de France et l'Église réformée de France se sont unies pour constituer l'Église protestante unie de France. Cette Église a d'abord été construite sur une base, j'allais dire, administrative, permettant de savoir comment nous allions vivre ensemble entre nos différentes traditions. Et puis aujourd'hui, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, nous sommes en route ensemble pour tenter de définir, de dire notre foi, avec des mots qui conviennent aux uns et aux autres. Cette déclaration de foi, elle aurait pu être écrite par quelques théologiens dans leur coin. Cette déclaration de foi, elle aurait pu être décidée, imposée d'en haut. Mais cette déclaration de foi, il a été décidé de la faire travailler comme un sujet synodal classique dans notre Église, c'est-à-dire que chaque Église locale s'en empare. Alors il y a eu une proposition de base qui a été faite l'année dernière, à l'automne, et puis dans les paroisses, les églises locales, des groupes, des conseils presbytéraux, des groupes créés spécialement pour l'occasion, des cultes parfois, ou des séances de catéchèse se sont penchés sur ce texte. Et chacun a pu dire les choses de telle manière pour exprimer ma foi, ça me convient ou ça ne me convient pas. Et ces réactions, ces partages, ces réflexions ont été envoyées au niveau national qui a collecté, qui a tenté d'entendre les réactions des uns et des autres. Et là, vient d'arriver dans nos paroisses et églises locales une deuxième mouture de cette déclaration de foi qui sera discutée aux prochains synodes régionaux au mois de novembre, avant une discussion au niveau national en mai prochain. Je suis heureux de cette démarche et de ce processus, car vous, pas moins que moi, pas plus que moi, pas plus et pas moins que nos dirigeants au niveau national, pas plus et pas moins que les théologiens de notre Église, vous, nous avons à témoigner de notre foi. Chacune et chacun, de manière incertaine peut-être, de manière balbutiante parfois, de manière strictement temporaire. Aujourd'hui, dire les choses ainsi me convient, mais peut-être que demain, j'exprimerai les choses différemment. Nous sommes donc en quête, en chemin, en marche. Et cela, chacune et chacun, les uns avec les autres, à l'écoute les uns des autres. à ceux qui tentent de nous imposer un discours univoque, unilatéral, massif, monolithique, que ce soit dans le domaine théologique ou dans le domaine politique ou dans la société, juste dans la rue, en dehors de ces murs, nous avons peut-être à dire ou à apprendre que les choses peuvent se dire en écoutant les subtilités, les nuances, les différences des autres. Et que ces subtilités, ces nuances, ces différences permettent aussi à celui et celle qui les reçoit de grandir et d'avancer sur son propre chemin. Amen.